France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette série d'émissions consacrée à la philosophe Maria Zambrano. Aujourd'hui, premier épisode, la philosophie comme vocation. Maria avait le teint très clair et des cheveux noirs, des yeux vifs, parfois voilés par une légère mélancolie, et ses lèvres esquissaient un sourire discret. Des gestes courtois, une voix douce et bien posée, une voix qui venait de loin. C'est dans ces termes que le poète mexicain Octavio Paz décrivait Maria Zambrano. Elle était pour lui insaisissable. Il est vrai que Maria Zambrano apparaît comme une figure ambivalente, fugitive, difficile à appréhender. Née en 1904 et morte en 1991, Maria Zambrano, philosophe de formation, enseigne d'abord la philosophie à l'Université de Madrid. Bien que la philosophie soit pour elle une véritable vocation, elle n'hésite pas à décloisonner cette discipline en puisant d'autres sources dans la littérature, la mystique ou la poésie. Elle est ainsi la première femme à recevoir le prix Cervantes en 1988, un prix littéraire attribué à un auteur de langue espagnole. Sa pensée et son œuvre sont également marquées par les événements historiques qu'elle a vécus. Engagée dans la lutte contre l'armée franquiste et forcée de s'exiler, sa situation l'a conduite à développer des réflexions sur la condition de l'exilé et sur la démocratie. Avoir raison avec cette voix qui vient de loin suppose de commencer par une immersion dans les entrailles de la vie de Maria Zambrano, sa philosophie étant un savoir de l'expérience qui tire son origine de la vie elle-même. Pour parler du lien entre sa vie et sa pensée, j'ai le plaisir d'ouvrir cette série d'émissions avec Camille Lacos-Anguilly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études hispaniques à Sorbonne Université, spécialiste de la philosophie espagnole contemporaine et de Maria Zambrano. L'inédit de votre habilitation à diriger des recherches, une auscultation ou radiographie de l'âme et de la pensée de Maria Zambrano, donnera bientôt lieu à une publication. À mes côtés également, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Estève. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités au département d'espagnol de l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez dirigé le collectif intitulé Clartes de Maria Zambrano aux presses universitaires de Bordeaux, publié en 2013.
Je sens l'Espagne en moi. Je la porte, ce serait mieux de ne pas le dire, mais je me dois de dire la vérité. Je la porte dans mes entrailles. Alors, quand je ne trouve pas mes entrailles dans celles de l'Espagne, je peux rester dans un vide terrible. Ou je peux aussi me précipiter dans n'importe quel gouffre si je sens que ces entrailles sont profondes. C'est ce qui m'est toujours arrivé avec l'Espagne. Elle n'a jamais été en dehors de moi. Je n'ai pas pu être en elle. C'est une situation paradoxale qui, je l'espère, cessera désormais de l'être. Ne pas effacer ce qui a été. Ne pas effacer l'exil. Continuer à être une exilée en Espagne serait peut-être un grand exploit moral.
C'était la voix de Maria Zambrano dans une archive datant de septembre 1985 sur la radio-télévision espagnole. C'est la première fois qu'elle s'exprime dans les médias depuis son retour d'exil. Avant d'être une voix qui vient de loin, elle est d'abord une voix qui vient d'Espagne. Que représente pour Maria Zambrano l'Espagne, son pays natal qu'elle dit littéralement porter dans ses entrailles? Camille Lacos-Anguilly.
L'Espagne, c'est toute son existence, c'est effectivement ce qu'elle porte, je dirais maternellement, en elle, philosophiquement, politiquement, c'est l'objet de toutes ses attentions, qu'elle soit en Espagne ou qu'elle en soit sortie pour s'exiler. Elle va toujours chercher à, que ce soit politiquement ou philosophiquement, à œuvrer à sa régénération, à sa réhumanisation, dans le sillage de son père et de, entre autres, toute la génération de 98, mais aussi de son maître José Ortega y Gasset. Et elle va chercher à la réanimer, réanimer le pouls de cette Espagne qui, pour elle, ne bat plus, en s'engageant notamment politiquement lors de la Seconde République et de mille autres façons. Et elle va, elle la porte comme elle porterait un enfant.
D'accord, donc elle gardera toujours l'Espagne en ligne de mire, où qu'elle soit durant son long exil. Raphaël Estève, Maria Zambrano est-elle connue en dehors de l'Espagne? Si oui, où et comment? Qu'en est-il notamment pour la France, puisqu'elle y a vécu, à Paris et dans le Jura aussi, lors de son exil?
Alors, avant de répondre à la question en dehors de l'Espagne, j'aimerais préciser que maintenant, en Espagne, elle est très étudiée. C'est-à-dire que c'est sa modernité, en fait, que cette belle série d'émissions que vous proposez aura l'occasion de d'étayer, qui fait que c'est un objet d'étude tout à fait institutionnel maintenant. Pour ce qui est de votre question proprement parlée, en dehors de l'Espagne, alors, on peut dire que ça épouse en partie l'itinéraire de son exil, sur lequel vous reviendrez aussi. Disons que, au Mexique, elle a côtoyé des gens, vous avez cité Octavio Paz en lançant l'émission, qui ont gardé une trace de sa pensée, une empreinte de sa pensée, et dont la poétique n'est pas si éloignée des enseignements philosophiques de Maria Zambrano. Pour ce qui est de la France, elle y a séjourné deux fois. Une fois dans des circonstances un peu tragiques, puisqu'elle venait, suite au décès de sa mère, à l'enterrement de laquelle elle n'a pas pu assister, c'était en 1939, elle y est restée jusqu'en 42-43, et là, c'est un moment d'effervescence intellectuelle totale à Paris, où Octavio Paz se trouve également, donc il y a une forte communauté intellectuelle des exilés, mais aussi une forte connivence intellectuelle avec cette génération française, Sartre, de Beauvoir, Camus, et l'anecdote veut, la légende veut, je ne sais pas si elle est vérifiable, que Camus, dans l'accident de voiture qui lui coûte la vie, avait les épreuves de la traduction française de L'homme et le divin, l'ouvrage dont nous allons peut-être parler un peu plus tard.
Et oui, qu'il envisageait de déposer à la maison d'édition Gallimard. Et si on revient donc sur le début de sa vie, Maria Zambrano est née en 1904 à Vélez Malaga, en Andalousie. Elle vient d'une famille de catholiques libéraux, son père proche du mouvement socialiste ouvrier est professeur. Il est aussi l'un des fondateurs avec le poète Antonio Machado, dont il était l'ami proche, de l'Université populaire de Ségovie en 1919. Camille Acosta-Guilly, dans quel environnement Maria Zambrano grandit-elle?
Alors elle grandit dans un milieu d'instituteurs. Son père est instituteur, sa mère l'est également. Elle grandit dans un milieu très intellectuel, mais aussi dans ce foyer, elle est habituée à ce que ses parents reçoivent des gens qu'ils forment. Ils sont très sensibles à la formation d'ouvriers, d'indigents quels qu'ils soient, de gens pauvres sous toutes ces formes. C'est une petite fille extrêmement précoce, assez solitaire, qui vit en marge de façon globale. C'est une petite fille chroniquement malade. Ça a une grande incidence pour elle. Elle voit le monde depuis la fenêtre de sa chambre, et elle est habituée à entendre des gens parler d'Espagne, Antonio Machado et d'autres qui viennent visiter son père notamment.
Notamment des poètes.
Beaucoup de poètes, oui. Et elle va entrer en poésie, je dirais, grâce à son cousin, Miguel Pizarro Zambrano, qui va lui faire rencontrer Federico García Lorca. Et en réalité, pour elle, quand elle dit cette proximité qu'elle a avec les poètes, c'est une proximité qu'elle a avec poètes, c'est plutôt l'âme poétique au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien des peintres, des artistes. Elle est très ouverte à cela.
Du fait de sa solitude, est-ce qu'elle ne se réfugie pas dans des lectures déjà jeune, très jeune?
Elle commence à lire extrêmement jeune. Son père s'inquiète de cette précocité. Elle dit qu'elle nage dans les livres, dans la bibliothèque de son père. Elle commence très très jeune des lectures d'Ortega et Gasset, notamment les méditations sur le Quichotte.
On pourrait peut-être dire en quelques mots pour les auditeurs qui était José Ortega y Gasset.
C'était, disons, le grand philosophe de l'époque qui a restructuré la philosophie à l'Université centrale de Madrid. Et donc elle vit dans cette intellectualité d'adulte, et en même temps elle se retranche pas seulement dans la maladie mais également dans le rêve, dans le délire, dans les fantasmes. Elle est habituée à vivre le monde à travers la médiation fantasmatique.
Ce qui aura des conséquences sur son élaboration philosophique. Et si l'on revient en 1924, à 20 ans et de santé fragile, toujours, Maria Zambrano est l'une des rares femmes à suivre des cours de philosophie à l'Université centrale de Madrid, qu'on vient d'évoquer. Et c'est dans le recueil intitulé « Vers un savoir de l'âme » qui date de 1950 qu'elle se souvient d'un cours du professeur Xavier Zubiri sur les catégories d'Aristote.
Un jour inoubliable de mai, une des fentes du bâtiment San Bernardo qui donnait sur une cour et qui formait un écran noir est traversée par un rayon de clarté. Le professeur Zubiri expliquait rien de moins que les catégories d'Aristote. et je me suis retrouvée, non pas dans une révélation fulgurante, mais dans ce qui a toujours été le mieux pour ma pensée, la pénombre touchée par la joie. Et alors, silencieusement, dans une pénombre, dirais-je, plus que de mon esprit, de mon âme, de mon cœur, a commencé à s'ouvrir comme une fleur le sentiment discerné que peut-être je ne devais pas abandonner l'étude de la philosophie.
France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Malgré les périodes de doute traversées, jamais Maria Zambrano ne renoncera à la philosophie. Raphaël Estève, c'est un rayon de clarté qui suscite cette vocation. Davantage que la pleine clarté dans laquelle la raison des modernes peut nous placer, pourquoi et qu'est-ce que cela nous dit de ses lectures et influences philosophiques ?
Alors, son rapport à la clarté est un rapport de gradation ou de graduation, c'est-à-dire qu'il y a tout un jeu d'intensité qui va de l'aveuglement impérialiste d'une raison qui néglige et qui met sous les traits noirs tout ce qui n'est pas elle, à toute une gamme de tolérance et d'accueil à cet autre de la raison. Voilà, c'est pour résumer très très simplement son postulat philosophique. Le mot postulat est sûrement mal choisi. Pour ce que ça déclare ou trahit de ses lectures, je m'arrêterai sur le mot joie. Puisque, justement, Spinoza, si on entre un petit peu dans le détail de la biographie philosophique, est un enjeu doctoral pour Maria Zambrano, qui est tentée d'abord justement par une thèse avec Zubiri, qui est le jeune philosophe plus jeune qu'Ortega, qui arrive et qui a une rigueur dont le charisme d'Ortega voudrait bien s'approcher, et qui va d'ailleurs mettre Ortega au diapason d'une certaine forme de professionnalisme de la philosophie. Et donc, après hésitation, elle choisit finalement Ortega y Gasset comme directeur de thèse, et Spinoza comme sujet de thèse, pour une thèse qui finalement donnera lieu plutôt à un article qui sera éponyme, c'est-à-dire la salvation de l'individu en Spinoza, c'est-à-dire le sauvetage de l'individu chez Spinoza.
Le salut.
Oui, le salut, mais j'aime bien l'idée de sauvetage parce que justement, le rapport de Spinoza à l'individu est souvent un petit peu problématique. Donc, ouais. ce qu'elle aime chez Spinoza, ce sont plusieurs choses. C'est d'abord la réhabilitation du corps, une espèce de retour et de négation du dualisme cartésien qui séparait beaucoup le corps et l'âme et qui faisait de l'âme, du corps quelque chose de mécanique et qui relevait uniquement de l'étendue.
Ce qui fait peut-être écho d'ailleurs à sa situation lorsqu'elle était jeune, adolescente, malade, reclue. On comprend l'intérêt qu'elle porte.
Oui. Au corps, même si c'est vrai, dans ses mémoires, elle dit qu'elle a, parce qu'elle l'a trop sollicité, parfois négligé ce corps. Mais dans sa pensée, et je crois que Camille pourrait en parler très bien, il y a un rapport à l'incarnation et à la corporéité, y compris de ce qu'elle appelle l'âme. Et justement, c'est ça qu'elle trouve chez Spinoza, c'est-à-dire une concrétisation de ce qu'est l'âme et non pas une abstraction qui serait dualiste comme celle de Descartes qui oppose. Oui. Tout à fait l'immatériel et le matériel.
D'ailleurs, sous sa plume, on ne voit pas les mots intellect, conscience. Elle parle plutôt d'entrailles, d'âme, de cœur.
Oui, alors disons qu'elle a une espèce d'axiologie, hein, c'est-à-dire ou de polarisation. Elle parle beaucoup de la conscience, mais pour dire justement qu'elle n'est pas l'âme. Et donc, il y a une pédagogie de l'âme parce qu'elle n'est pas.
D'accord.
Et la conscience, ça n'est pas l'âme.
Moi, je suis sensible dans cette source à cette pénombre touchée par la joie. C'est une femme qui va ressentir son appel vocationnel philosophique quand même un appel dans la pénombre. Et la pénombre, ça n'est pas la pleine obscurité, mais ça n'est pas la pleine lumière. Il y a quelque chose chez elle d'un grand désir, d'un appel presque archaïque à habiter les pénombres, à habiter un lieu qui ne serait pas le lieu, puisque l'allégorie de la caverne va avoir une grande importance chez elle. Elle ne veut pas que la philosophie soit une célébration sous un soleil brûlant, mais que ce soit une célébration de la vie dans un lieu, non pas de pleine obscurité, là où étaient les prisonniers de la caverne, mais dans un lieu de pénombre, qui est très particulier. Et on le verra dans toutes ses œuvres, notamment son Antigone, sa Diotime de Mantinée, tout un tas d'actualisations de cette pensée quand même de la pénombre, à la fois aurorale et de la pénombre.
C'est peut-être pour ça qu'elle tenait autant à l'image de l'aurore, qui est une clarté naissante depuis l'obscurité. En 1931, Maria Zambrano commence à enseigner la philosophie à l'Université centrale de Madrid, tout en travaillant, on l'a dit, à sa thèse de doctorat sur Spinoza. Camille Lacaux-Singuilly, avait-elle conscience d'être une femme philosophe à cette époque ? Et si oui, quelle influence cela a-t-il eu sur son parcours universitaire ?
Elle était une femme philosophe, elle avait un rapport à sa féminité assez particulière tout de même, c'est-à-dire qu'elle avait bien conscience qu'elle était dans un milieu masculin, qu'il serait difficile sans doute de faire entendre sa voix, mais elle avait quand même un rapport très singulier à sa féminité. Comme vous disiez, Raphaël Estève, elle se voit nue et transparente, elle a une projection spéculaire d'elle-même, très dénarcissisée. Et donc son rapport à la femme est tout de même un rapport qui n'est pas... elle ne se voit pas en femme triomphale, triomphante dans un monde masculin, même si sa voix féminine sera extrêmement puissante dans sa fragilité. Pour ce qui est de la difficulté qu'elle a à progresser institutionnellement dans un milieu d'hommes, sans doute que être une femme lui portera préjudice, notamment lorsqu'elle s'exilera, elle essaiera un moment d'entrer
à la Casa d'Espagne,
à la Casa d'Espagne, au Mexique, où on dit que probablement elle n'y entrera pas parce qu'elle était une femme, et qu'elle ira, elle sera envoyée à Morelia, où elle sera assez malheureuse dans cette espèce de mise en marge. Voilà. Après, je pense que ça, la puissance de cette femme aurait pu laisser imaginer qu'elle occupe un poste. On lui a proposé d'occuper un poste à l'Universidad Autónoma de México un peu plus tard. Et elle refusera ce poste dans cette espèce de mobilisme structurel qui l'habite et qui fait qu'elle a tout de même du mal à demeurer quelque part.
Et à Madrid, si on revient à Madrid, María Zambrano reçoit l'enseignement, on l'a évoqué, du philosophe espagnol José Ortega y Gasset, qui aura une importance décisive pour sa vie et pour sa philosophie. Camila Cosanguilli, quand s'émancipe-t-elle de la tutelle de celui qui a été son maître pour affirmer sa propre philosophie? Est-ce que c'est au moment de la publication d'un article intitulé « Vers un savoir de l'âme » en 1934?
Je pense qu'en fait, elle boit à la source ortéguienne, à cette pensée qui se veut tout de même novatrice, puisque Ortega est celui qui propose la raison vitale, c'est-à-dire une raison qui ne serait plus ultra-conceptualiste, mais qui serait dont le cœur serait la vie. Comme réalité radicale, introduire la vie au cœur de la raison, mais elle va faire l'expérience d'une nécessité de dépasser cette pensée parce qu'elle n'est pas suffisamment incarnée. Elle va vouloir revisiter, justement, que la philosophie puisse sentir les entrailles humaines. C'est peut-être en cela qu'elle est une femme philosophe, en proposant une philosophie vraiment entrailleuse. Et donc, ce qu'elle va proposer dans « Vers un savoir sur l'âme », et qui, de fait, va entériner une sorte d'opposition ou de distanciation de la disciple du maître, c'est ce texte dans lequel elle veut proposer un savoir sur l'âme, non pas un savoir intellectuel, mais un savoir des entrailles de l'autre de l'être, l'autre que l'être. Se détacher d'une raison absolue pour venir habiter tout ce qu'elle appelle l'autre, c'est-à-dire les passions qui déchirent le cœur humain, le mouvement, les couleurs, tout un tas de choses qui sont l'autre que l'être parménidien. Notamment. Et ça, Ortega va le vivre. Ortega, qui était un homme très imposant, très, sans doute très narcissique, va vivre très mal l'hétérodoxie de sa disciple.
Parce qu'elle va peut-être plus loin que lui dans l'exploration des entrailles de la vie. Dans ses exercices d'admiration, le philosophe roumain Émile Suran, que María Zambrano a rencontré à Paris à la fin des années 1940, écrit à son sujet « María Zambrano n'a pas vendu son âme à l'idée. Elle a sauvegardé son essence unique en mettant l'expérience de l'insoluble au-dessus de la réflexion sur lui. Elle a en somme dépassé la philosophie. N'est vrai, à ses yeux, que ce qui s'arrache aux entraves de l'expression, ou comme elle le dit magnifiquement, la palabra liberada del lenguaje, la parole libérée du langage. » Raphaël Estève, María Zambrano est parfois taxée de philosophe-poète en raison de son mode d'expression singulier. A-t-elle dépassé la philosophie comme le dit Suran, ou diriez-vous que son expression est avant tout philosophique?
Alors, la réponse serait circonstanciée pour jouer sur les mots de son maître qui vient d'être évoqué. Alors, il faut voir qu'effectivement, si on est sur la dimension biographique, elle a côtoyer beaucoup de poètes dans le milieu intellectuel privilégié dans lequel elle évoluait quand elle était enfant et adolescente, mais aussi parce que générationnellement, elle est de l'âge de cette génération qui s'appelle la génération de 27 et qui est la plus dense de grands poètes universellement connus maintenant. Je crois que l'Espagne est comptée. Dieu sait qu'il y a de grands poètes espagnols. Donc, ses amis, aussi dans l'exil, étaient des poètes. Hein, le cubain, les Samalima, elle est amie aussi avec Emilio Prado, qui est espagnol, mais qui est exilé aussi. Et donc, forcément, cet environnement culturel qui fait l'Espagne, qui est l'Espagne de cette période-là, et auquel elle tient, puisque pour elle, il y a une vérité de l'Espagne. C'est-à-dire beaucoup de choses qu'elle affirme être caractéristiques de l'existence, elle les décrit à l'identique comme étant caractéristiques de l'espagnol. Et ça, c'est très très marquant chez elle. Elle est comme son autre maître, mais indirect, Unamuno. Elle voudrait plutôt espagnoliser l'Europe qu'européiser l'Espagne. Et donc, tout ça, le fait que ces formes d'expression soient privilégiées en Espagne par une espèce de support populaire, des formes populaires, poésie, dictons, etc. Voilà, tout ça influe dans son style et concrètement, dans sa bibliographie, il est vrai qu'il y a un panel de styles très différents, de traités philosophiques assez orthodoxes comme Personne et démocratie ou Notes pour une méthode, à des ouvrages intermédiaires comme L'homme et le divin où il y a des espèces de fictions anthropologiques, dont la philosophie est par ailleurs coutumière, hein, elle n'est pas la première. Et après, on y viendra peut-être, des formes encore plus poétisées, qui confinent à une forme d'expression mystique. Mais, tout le long, effectivement, une écriture incarnée, une écriture vivante, une écriture métaphorique.
Et s'explique aussi par le choix du mode de rationalité qu'elle adopte, oui, la raison poétique.
Qui est évidemment en adéquation avec cette approche. Et de fait, elle a rédigé une forme d'œuvre théâtrale qui n'est pas vraiment une œuvre théâtrale, mais qui malgré tout serait répertoriée comme telle. Et il y a aussi une dimension narrative stricte à la troisième personne dans son autobiographie
Délire et destin. Ouais. Publiée en 1989. Vous avez mentionné L'homme et le divin, publié pour la première fois en 1955. Et Maria Zambrano la considère comme la plus grande œuvre de sa vie. Raphaël Estève, pourquoi ce livre est souvent considéré comme le plus important de son œuvre, y compris par ses contemporains, comme Albert Camus, dont on a raconté l'anecdote. Pourquoi une telle considération de L'homme et le divin?
C'est peut-être un tropisme philosophique, mais c'est parce que c'est une œuvre très cohérente, très claire, très belle à lire aussi, parce que j'ai parlé de ses fictions anthropologiques, donc il y a une dimension narrative, notamment pour cette origine des origines qu'elle appelle l'Apeiron, qu'elle reprend à la mythologie grecque, à la cosmogonie grecque, et qui est espèce d'environnement initial indifférencié. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est passionnant. Comment cette anthropogénèse, en fait, comment l'être se forme impartiellement, ou partiellement et incomplètement, je veux dire. Et tout ça forme un tout cohérent, qui se lit très très bien aussi, parce qu'il y a vraiment une dimension narrative très forte, et son style, voilà, c'est une écrivaine ou écrivain, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise, mais voilà, elle a une empreinte stylistique.
Et la vie de Maria Zambrano est aussi marquée par les épreuves de la guerre et de l'exil. Camilla Cosinguilli, quelles en sont les conséquences sur son écriture ?
En fait, c'est même pas tant les conséquences sur l'écriture. Elle écrit comme elle l'est. L'écriture est pleinement enracinée dans son expérience. Donc, en fait, toute sa modalité expressive est pétrie de la douleur. Une douleur initiale qu'elle vit, on en a parlé dans la maladie, mais aussi dans cette souffrance terrible de la guerre civile, de l'exil, mais aussi ce qu'elle vit avec sa sœur. Elle a une sœur qu'elle adorera et qui vivra des tortures de la Gestapo. En fait, toute son œuvre philosophique est pétrie de, je crois, de la douleur de vivre qu'elle va transformer en une soif de vitalité absolument insatiable. Et il y a une corrélation très claire entre une douleur, un pathos, une expérience agonique. Elle vit vraiment un agone existentiel terrible qui la terrasse, et l'écriture est l'espace de sublimation, de réparation, où elle se réhumanise, où elle peut souffler de nouveau. C'est de la même façon, elle va réanimer la poitrine d'Antigone, elle se réanime au moment où elle prend la plume pour modeler ou pour construire sa pensée philosophique. Donc une corrélation absolue entre l'épreuve et la sublimation ou l'expérience philosophique.
Et en introduction, j'ai présenté Maria Zambrano comme une figure ambivalente, parfois insaisissable. Elle est en effet toujours à mi-chemin entre différents modes de pensée, la philosophie, la poésie, la philosophie, la poétique, même parfois la mystique et la peinture, on va y venir, mais à quelle source, concrètement, Maria Zambrano s'abreuve-t-elle ? Est-ce que ce ne sont pas des sources qui sont souvent mises à l'écart du corpus philosophique classique ?
Bah, en fait, elle s'abreuve à toutes les sources possibles, que ce soit des poèmes. Elle est, tout à l'heure, quand vous me posiez la question de ses lectures, je me suis arrêtée sur Ortega y Gasset. Mais évidemment, j'avais en tête, et j'ai oublié de le dire, tous les présocratiques qui vont avoir une incidence immense sur elle, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas vécu la scission entre la poésie et la philosophie. Toute cette partie de ses lectures, avant la cassure, la scission socratique, qui crée une séparation entre la poésie et la philosophie. Donc je pense qu'elle est très sensible aux poèmes des présocratiques, aux tragiques, mais pas seulement, elle va lire bien plus tard... des saints Augustin, c'est une femme qui a une... Je suis allée récemment dans sa bibliothèque à la Fundación Maria Zambrano à Vélez, Malaga, et c'est merveilleux de finesse et d'intelligence et de pluralité que cette bibliothèque qui dit la multiplicité de ses sources et à mon avis qui peuvent expliquer une telle richesse philosophico-poétique. Tout à l'heure vous parliez on la taxerait de philosophe-poète. Pour moi, il n'y a aucun mépris. Au contraire, il y a quelque chose à restaurer. Moi, je viens en un sens porter la voix de Maria Zambrano ici en disant que il faut pouvoir glorifier en fait la proposition philosophique zambranienne qui est pleinement philosophico. Poétique. De la même façon, Nietzsche ne rougirait pas d'être classé parmi les philosophes et personne aujourd'hui ne remettrait en cause la place de Nietzsche chez les philosophes, et bien que Maria Zambrano puisse, en pleine philosophe et en pleine poétesse, être acceptée dans cette république philosophique sans devoir sortir de cet espace parce que elle veut y faire venir plus de poètes qui ne seraient plus dans cette prolongation de la condamnation platonicienne à exclure.
Et cela expliquerait peut-être ces poèmes philosophiques, si on peut parler ainsi, que sont par exemple les Clairières du Bois en 1985 ou De l'Aurore en 1987, des textes plus mystérieux qui sont publiés à la fin de sa vie puisqu'elle meurt en 1991.
Oui, mais poèmes philosophiques, ce sont des, si vous voulez, poèmes philosophiques, mais elle écrit en prose et c'est une philosophie qui cherche à venir creuser l'expérience mystique, l'expérience du désert, mais aussi comment la philosophie peut dire la réalité. Donc poème, si on cherche en philosophie à dire le réel dans une expression la plus épousante du réel, mais ça se discuterait, cette idée de poème philosophique, c'est aussi une philosophie poétique.
En réalité, eu égard à la conception qu'elle a de la philosophie, peu de ses lectures n'en relèvent pas. Donc on a parlé des poètes, donc voilà. Mais vous voyez qu'il y a cette conjonction des deux dont elle a du mal à accepter la séparation. Et en y réfléchissant vraiment, si on cherche des lectures qui sont vraiment extérieures au champ de ce qu'elle appelle la philosophie, alors oui, elle a écrit un livre sur Galdós, par exemple, qui est un romancier, où là, vraiment, mais elle y trouve quelque chose de philosophique, mais ça n'est pas la sphère qu'elle associe à la philosophie. Donc, les poètes, bien sûr, les présocratiques, bien sûr, mais pour elle, c'est une constellation qui n'est pas le dehors de la philosophie, telle qu'elle la conçoit.
Eh bien, on voit bien que la philosophie est toujours un savoir de l'expérience qui naît de la vie pour Maria Zambrano. Merci beaucoup Camille Lacossinguilli et Raphaël Estève. Les références de vos travaux sont indiquées sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci également à Géraldine Sageman qui, toute cette semaine, prête sa voix à Maria Zambrano. Cette émission a été réalisée par Julie Béressi avec à la prise de son Olivier Arnay.